100% d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
La Moldavie s'est choisi un nouveau président, une présidente en réalité, puisque pour la première fois depuis l'indépendance du pays en 91, c'est une femme qui a été élue à la tête de ce petit pays, l'un des plus pauvres d'Europe, coincé entre la Roumanie et l'Ukraine. Maya Sandu, 48 ans, pro-européenne, diplômée de Harvard, ancienne économiste de la Banque mondiale et ex-première ministre, est réputée pour sa rigueur et son intégrité. Elle a séduit avec un programme de réformes radicales et de lutte contre la corruption, dont l'application dans cette ancienne république soviétique ne sera pas forcément aisée, Sébastien Gobert.
La Moldavie est à la croisée des chemins. La candidate Maya Sandu avait asséné ce message pendant sa campagne. Son pays, un des plus pauvres d'Europe, est un État en reconstruction après des années de mauvaise gestion et de détournement de fonds massifs. L'ancienne économiste de la Banque mondiale entend donc réformer l'État, remettre à plat le système judiciaire, appliquer une tolérance zéro en matière de corruption et obtenir de l'aide internationale pour relancer l'économie. Depuis son entrée en politique il y a une dizaine d'années, Maya Sandu n'a jamais caché que son programme engendrerait des sacrifices dans un premier temps, ce qui ne l'a pas empêché de défier toutes les prévisions et d'emporter une nette victoire sur le président sortant, Igor Dodon. Lui est favorable à des politiques de stabilité et d'aide sociale financées par une relation plus étroite avec la Russie. Maya Sandu remporte l'élection notamment grâce à une mobilisation record de la diaspora. 260 000 Moldaves de l'étranger sont allés voter pour offrir presque 93% de leur voix à la candidate. Un score inédit qui illustre les espoirs suscités par Maya Sandu, mais aussi sa responsabilité historique. Il lui faut désormais créer les conditions pour que les émigrants moldaves, un tiers de la population nationale, aient envie de revenir vivre dans leur pays. C'est aujourd'hui que commence le plus dur. Pour appliquer son programme ambitieux, Maya Sandu ne peut compter ni sur le Parlement, ni sur le gouvernement, acquis au président sortant. Sa première obligation sera donc de déclencher des élections anticipées.
Une femme sur deux en Europe déclare avoir subi au moins une fois du harcèlement sexuel depuis l'âge de 15 ans. Le chiffre est énorme et l'infraction pas toujours évidente à condamner. Il en va de même pour le harcèlement dans les écoles. Le phénomène sévit partout sur le continent et particulièrement en Belgique. Là-bas, on estime qu'un enfant sur trois est touché par ce fléau, que cela soit en tant que victime ou qu'harceleur. Bonjour Jérémy Audouard.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos correspondants à Bruxelles et Jérémy, la Belgique a la réputation d'être à l'avant-garde en matière de lutte contre le harcèlement. C'est vraiment le cas ?
Eh bien paradoxalement, non, pas vraiment. Il existe bien un décret ministériel depuis plus de 10 ans qui vise à lutter contre le harcèlement à l'école, mais dans les faits, il est assez peu appliqué. Certains établissements scolaires ont peur d'entacher leur réputation ou alors n'ont pas envie d'y consacrer d'argent. Pourtant, avec la Covid, les cas de harcèlement ont augmenté. Les violences qui se produisaient dans la vraie vie se sont déportées dans les activités scolaires en ligne sans que les profs en soient avertis. C'est ce qu'on appelle l'exclusion numérique par l'isolement. Par exemple, un professeur demande à des élèves de former des groupes de travail. Certains jeunes sont exclus ou ignorés de ces groupes. Et la difficulté de parler ou de résoudre ces problèmes avec une école à distance est plus grande.
À côté de ça, il existe de nombreuses initiatives, des solutions qui fonctionnent plutôt bien.
Oui, et l'exemple le plus spectaculaire, c'est celui des zones séparées dans les cours de récréation. C'est une méthode développée par le chercheur belge Bruno Humbeck et qui est appliquée dans plusieurs écoles du Royaume. Alors le principe est simple, dans la cour, on a tracé des traits sur le sol, des traits qui délimitent trois zones dans lesquelles les élèves peuvent évoluer. Une zone où on peut jouer avec un ballon, une autre zone où le ballon est interdit, mais où on a le droit de courir, et enfin une troisième zone, la zone calme. Ce découpage montre son efficacité, les tensions entre les jeunes sont beaucoup moins vives. Une autre solution a fait ses preuves, on fait appel à des élèves au pair, c'est-à-dire des élèves un peu plus âgés qui servent de référents et de tuteurs aux plus jeunes.
Vous avez trouvé aussi une association qui aide les victimes à se défendre.
Oui, mais à se défendre de manière non violente, avec les mots, en aiguisant le sens de la répartie et de l'éloquence. C'est une méthode qu'applique l'association Dans ma ruche, qui est basée à Charleroi. Alors cette technique se base sur un jeu de cartes, le tac-à-tac, un jeu créé en Belgique. Les élèves tirent des cartes sur lesquelles sont inscrites des insultes en tout genre, et les jeunes doivent répondre en maniant l'ironie, la dérision ou la pirouette. Une manière d'apprendre à avoir de la répartie et garder une certaine distance pour ne pas tomber dans la spirale du harcèlement.
Merci Jérémy Audouard, à bientôt. En France, 700 000 enfants, soit près d'un enfant sur 10, seraient victimes de harcèlement scolaire selon une étude de l'UNICEF. Les campagnes pour lutter contre ce phénomène se multiplient. Il y a aussi un numéro vert, le 30-20, mais rien de tel que la parole de quelqu'un qui l'a vécu pour sensibiliser et libérer la parole sur ce sujet encore tabou. En Picardie, un jeune chanteur va régulièrement à la rencontre de parents et d'enfants pour parler du harcèlement qu'il a lui-même subi. Le reportage de Lise Verbeck, tourné juste avant le reconfinement.
J'ai vécu le harcèlement scolaire dans cette région et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis à Amiens pour en parler.
Ce mercredi-là, c'est une journée marathon pour Marvin Darmon, alias Azerka, son pseudonyme. Le jeune écrivain et chanteur de 26 ans aujourd'hui a passé la matinée dans un collège, puis il enchaîne avec une table ronde avec des parents et des enfants.
C'est juste pour vous montrer, voilà, vous tous qui êtes là, que le dernier peut finir premier tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Voilà.
Azerka témoigne sur son passé douloureux, sans tabou, sans phare. Une véritable descente aux enfers qui commence à son entrée au collège.
Ça commence en sixième où on confond mon nom et on m'appelle boutonneux, calculatrice, bidonclard, pustule, parce que j'avais des boutons d'acné. En cinquième, on me versait le brodo à la cantine pour pas que je mange, on me poussait dans les couloirs, on me faisait comprendre que ma place, elle était pas dans l'état, elle était pas dans l'établissement, elle était pas dans cette école. En quatrième, j'ai reçu des menaces de mort dans mon casier. Si tu reviens dans la classe, t'es mort. J'ai reçu des mots en me disant, voilà, si tu ramènes pas les 2 euros dans le portefeuille de ta mère, je vais te frapper le lendemain. Pensant à m'en sortir, pensant à me faire des nouveaux amis, même si c'était des faux amis, mais au moins j'étais tranquille. Je l'ai fait. Et c'est en troisième que j'ai reçu tellement de coups au bras qu'aujourd'hui j'en ai des séquelles puisque je peux plus tourner mon poignet, je peux plus plier mon bras. Et en fait, ils m'ont frappé à coups de crampons dans les vestiaires du stade.
4 années de cauchemar. L'adolescent n'ose pas en parler, mais il se réfugie dans l'écriture, sur la toile.
J'ai écrit ce que je vivais sur un blog anonyme. Et vu les messages positifs que je recevais, je me suis dit, je vais en parler à ma mère. J'en ai parlé à ma mère, elle m'a tout de suite changé d'établissement. Et je sais pas, par la force du destin, il n'y a pas de hasard, ça j'y crois pas. Il y a un producteur qui m'a contacté sur ce blog. Il m'a dit, le texte que tu as écrit sur ton histoire, au moment où tu l'as vécu, il est poignant. Je veux que tu le racontes en musique. Je fais en musique. Mais arrête, je ne sais pas chanter. Enfin, faut déconner. Il me dit, mais si, t'inquiète pas, ça va aller.
Pour payer le billet de train jusque Lyon, où se trouve le studio d'enregistrement, la mère du jeune homme vend ses derniers bijoux. Aidée de son producteur, Azerka enregistre alors une, puis deux, puis trois chansons pour un gros label. Il raconte son histoire en musique, mais aussi dans un livre sorti il y a quelques semaines. Et depuis, il va à la rencontre des enfants et des parents dans des établissements scolaires pour leur expliquer son vécu.
Voilà. Si vous avez des questions, je suis là pour vous.
Et qu'est-ce qui vous a donné la force de vous en sortir ?
Oula, avant de vouloir m'en sortir, j'ai pensé plusieurs fois au suicide. Quand vous êtes tout en bas de l'échelle, maintenant le but c'est de remonter de quelconque manière. J'ai mis beaucoup de temps. Je pensais que pour moi, c'était fini.
Ce jour-là, face à lui, il y a Sofiane, 8 ans. Et ce n'est pas un hasard si sa mère lui a proposé d'assister à cette rencontre. Élève en classe de CE2, le témoignage de l'écrivain libère sa propre parole.
Je me fais harceler, je me fais frapper. Bah, des fois, j'ai pas envie du tout d'y aller. J'ai des boules au ventre. Et des fois, j'ai envie d'y aller parce que des fois, ça se passe bien et des fois, ça se passe mal. Je l'ai dit jamais aux maîtresses, mais au bout d'un moment, je vais commencer à dire aux maîtres et aux maîtresses.
Sofiane a compris qu'il était important d'en parler aux adultes autour de lui. Pour Issatou, 15 ans aujourd'hui, cela lui a pris 4 ans avant de parler à sa mère du harcèlement qu'elle a subi à l'école primaire.
Par rapport à ma couleur de peau, parce que mon père il était black et que ma mère était blanche. On me disait que j'étais une honte pour la France, que je devrais pas exister, que je devrais pas être sur cette planète. Donc au bout d'un moment, je trouvais ça normal. Et donc du coup, ben, je n'ai pas voulu en parler après. Et bah parce que j'avais peur des répercussions, en fait, parce que c'est ça, on n'en parle pas assez, c'est des répercussions. Parce que si l'agresseur, il le sait, et bah il va vouloir se venger, de se dire que bah s'il a été puni, bah c'est par ma faute. Alors que de base, c'est lui qui a fait le geste qu'il fallait pas. Donc du coup, bah j'ai pas voulu en parler. Et quand j'en ai parlé, j'étais en fin de sixième, début de cinquième, c'est parce que c'était toujours là et que je me suis dit que j'aurais dû en parler plus tôt.
Les conséquences d'un harcèlement scolaire peuvent se sentir encore des années après, comme l'explique Azerka.
J'ai eu des troubles du sommeil en sortant du collège, c'est-à-dire que le soir, quand je m'apprêtais à dormir, je devais avoir la porte entrebâillée, laisser une petite lumière. Je devais prendre des médicaments pour m'endormir, mais surtout, je voyais des harceleurs qui sortaient de mon lit, j'urinais au lit, j'avais très très peur. Et ça, pendant 2-3 ans, quand les troubles du sommeil sont partis, j'ai développé des troubles psychologiques où le harcèlement laisse des vraies séquelles et les harceleurs ne sont pas conscients, pensent que ça dure que quelques jours, quelques mois ou quelques semaines. Alors que non, pour moi, je pense que c'est à vie.
Sur sa main gauche, il s'est tatoué la phrase « Plus jamais seul ». C'est d'ailleurs le nom de la plateforme qu'il a mis en ligne pour aider les victimes. Il y reçoit chaque jour des dizaines et des dizaines de témoignages. Il leur répond en les encourageant à chaque fois à en parler à leurs parents ou à un adulte.
Les Roms régulièrement pris pour cible dans les discours politiques. L'idée que tout était mieux il y a 50 ans et qu'au fond, le fascisme a aussi fait de bonnes choses. Tous ces éléments font de l'extrême droite une menace bien présente au quotidien en Italie. Mais un historien veut donner envie à ses concitoyens d'entrer en résistance. Franceline Beretti, vous l'avez interrogé. Cette universitaire a sorti un livre au titre provoquant « L'antifascisme ne sert plus à rien ». Mais dans son ouvrage, il dit en réalité tout le contraire, Franceline.
Et il le dit clairement. Pour le chercheur Carlo Greppi, le loup est revenu. Autrement dit, il y a bien un danger fasciste en Italie. Qu'on l'appelle néofascisme, post-fascisme, parafascisme, l'agace un peu, c'est juste une façon de tourner autour du pot. Carlo Greppi.
Il y a des historiens qui ont fait le maître, qui ont dit « Eh non, on ne peut pas utiliser le mot fasciste ». C'est vrai que Salvini, c'est autre chose. Ce n'est pas un fasciste stricto sensu. L'histoire ne se répète jamais. L'histoire ne se répète pas, l'histoire fait les rimes. A dit Mark Twain. Mais nous, on doit reconnaître cette rime. Et quand on les reconnaît, il faut se battre sans hésitation.
Depuis 2 ans, la droite italienne est dominée par la Ligue de Matteo Salvini. L'ancien ministre de l'Intérieur monte les communautés les unes contre les autres, dénonce les bien-pensants, ceux qui ne pensent pas comme lui, et n'hésite pas à se moquer de la résistance italienne. Il a comparé la guerre entre fascistes et communistes à un derby, comme au foot. Comme si l'enjeu n'était pas si important que ça. Toujours à droite, l'étoile montante, c'est Giorgia Meloni, la chef de Fratelli d'Italia, frère d'Italie, et l'héritière directe du mouvement social italien, un parti d'extrême droite créé en 1946 par les anciens dirigeants fascistes.
La droite italienne, c'est donc plutôt l'extrême droite.
Voilà, mais personne ne s'en offusque. Ici, ce sont 2 partis parmi d'autres, avec leurs députés à l'Assemblée et leurs représentants sur toutes les télés. Si le fascisme est de retour, sous de nouvelles formes, c'est aussi parce que le débat public est gangréné par les idées d'extrême droite, analyse Carlo Greppi.
En Italie, il y a des journaux qui sont même pas des journaux, qui sont des pamphlets d'extrême droite. Et ces soi-disant journalistes sont tout le temps à la télé, quoi. Ils sont des provocateurs, des agents provocateurs de l'extrême droite. Je ne sais pas comment c'est la situation en France, mais ça, c'est un problème de démocratie. Parce que, comme disait Popper, si on tolère les intolérants, on va vers une société dans laquelle les intolérants peuvent prendre le pouvoir. Et donc, il faut vigiler sur la démocratie et sur le débat démocratique. Et il y a des opinions qui n'ont pas droit de citoyenneté dans une démocratie. Et ça, en Italie, on n'a pas compris.
La dérive n'est pas neuve. Elle a probablement commencé dans les années 1990, quand Silvio Berlusconi s'est allié aux néofascistes pour former une coalition et pouvoir gouverner. À l'époque, le président du Conseil et son parti de droite libérale avaient la majorité. Maintenant, ça n'est plus le cas. Forza Italia est quasiment mort et s'est fait déborder par ses extrêmes. L'historien Carlo Greppi en appelle donc à la création d'un vrai parti de centre-droit, pour créer une unité entre tous les démocrates, une unité née dans l'opposition à Mussolini il y a un siècle.
La résistance italienne, après 20 ans d'antifascisme clandestin et minoritaire, est devenue unitaire et regroupée tous les âmes politiques à partir de la droite libérale jusqu'à l'extrême gauche. Et ça, c'est énorme. C'est une histoire unique dans l'Europe occupée. Je crois qu'il faut retrouver cette unité.
Il propose quoi, Carlo Greppi, pour créer ce front antifasciste?
Déjà, il rappelle ce qu'a été la résistance italienne. Dans son livre au ton parfois lyrique, il raconte le courage des résistants italiens, la radicalité de leurs choix, leur vie détruite dans le combat contre le totalitarisme. Il nous parle du député Giacomo Matteotti, un socialiste assassiné par les fascistes à 39 ans pour avoir dénoncé les mensonges du régime, de Teresa Nocce, communiste entrée dans la résistance française, déportée en 1943, et de tant d'autres. Au fil des pages, on découvre les réflexions des opposants politiques enfermés par le régime, on lit les dernières lettres de jeunes de 20 ans, écrites avant d'être fusillés. Ce n'est pas un livre de chercheurs destiné aux passionnés d'histoire. Carlo Greppi a voulu écrire un manuel très concret pour que les luttes d'hier appuient celles d'aujourd'hui.
Merci Franceline Beretti.
Music.
Et nous entamons ce lundi une épopée musicale, une découverte de l'Europe par ses paysages sonores. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Vous nous emmenez aujourd'hui en Europe centrale.
Et je vous propose d'aller chercher l'inspiration aujourd'hui dans les paysages slovènes, comme l'a fait en 2017 le trio Chirom pour son album I Can Be a Clay Snapper, qui est en quelque sorte une transcription musicale du rapport que chacun des membres du groupe entretient avec les paysages de son enfance dans la campagne slovène. Les champs de colza jaune vif, les ruisseaux de montagne qui tombent en cascade, les méandres de la rivière dans les basses-terres ou encore les eaux mystérieusement évaporées du karst, cette région de plateau de l'arrière-pays du littoral, riche en grottes et en tunnels. Des paysages sonores que Chirom dessine avec une étonnante palette d'instruments, le balafon, le ribab, qui est un luth berbère, le banjo, l'alto ou encore des percussions de toutes sortes, la promesse d'un voyage des paysans.
C'était Just About Awake du trio Chirom. Accent d'Europe à la réalisation Victor Hull. Pour nous retrouver à toute heure et partout, rendez-vous à la rubrique podcast sur notre site rfi.fr ou sur votre plateforme d'écoute. À demain.